Eh bien, il y a quelques instants, on a pu entendre un morceau de Damian Bloom avec ce son incroyable Back to the Future medley, reprise qui a su capturer toute la magie de ce classique du cinéma. Et à l'instant, on a pu découvrir Venera 13 qui vient de nous rejoindre et dans la camionnette avec ce titre puissant, destructeur, un morceau qui monte toute l'intensité et l'énergie de leur musique. Ils viennent donc de nous rejoindre dans la Mystery Machine. Eh bien, bienvenue à vous, j'allume tous les micros, hop, comme ça, c'est impeccable.
Bien le bonjour. Hello.
Alors bonsoir, pouvez-vous nous parler un petit peu de la formation de Venera 13? Comment le groupe s'est-il formé et quelle est l'origine du nom?
Eh bien bonsoir, donc Antoine de Venera 13, hyper ravi d'être avec vous, c'est hyper gentil de nous inviter. On a formé ce groupe en fait parce qu'on travaillait déjà dans différentes formations, différentes formations tous ensemble. Et puis il y a quelques années, on a décidé de monter ce groupe pour apprendre de nouvelles choses. Gigi qui est notre batteur aujourd'hui est guitariste au départ.
Oui, principalement guitariste, est devenu batteur pour l'occasion pour le groupe exclusivement. Quoi. J'ai commencé de zéro grâce à la croyance et la confiance de monsieur. Il a cru en moi.
Et je crois en toi, je crois en tous. Et puis Robin, qui est donc notre bassiste, est un ami et quelqu'un avec qui je travaille beaucoup. On travaille ensemble sur des projets de films, notamment. Et on s'est dit, tu joues de la basse, et bien, on a besoin d'un bassiste, ça va être génial. Et il s'est parfaitement adapté à notre projet. Mmh. Et Tristan, bonjour Tristan.
Bonjour.
Voilà, qui nous avait mis une grosse claque dans un petit festival dans lequel on avait joué avec une autre formation. On avait découvert un autre de ces groupes, Maps and Folds, qui est extraordinaire. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs. On avait pris une grosse gifle, on s'est dit il faut qu'on débauche Tristan, il faut qu'il vienne bosser avec nous.
Et il a dit oui.
Et voilà, c'est un peu l'idée.
Quelles sont vos principales influences musicales et comment elles se reflètent dans votre nom?
À la base, on écoute quand même pas mal de choses différentes, mais on s'est beaucoup inspiré du rock et du metal des années 90, ces trucs comme Deftones, Incubus, Slipknot, toute cette scène un peu metal alternatif et tous les trucs un peu post-grunge de cette période-là. Et on a rajouté un petit peu toutes nos influences qu'on avait dans le funk. Moi, je suis un peu plus dans les trucs death metal, hardcore et les trucs un peu plus agressifs. Donc, on a un peu tout mélangé pour avoir un peu le meilleur des deux mondes avec le mélodique, le plus. Essayer de faire un peu notre popote comme ça, en rajoutant des claviers, des grosses guitares, en ayant des chansons un peu plus compliquées ou progressives ou des trucs un peu plus pop. Donc voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous composez les morceaux?
C'est un peu différent en fonction des chansons. En général, on jam sur des riffs en répétition et ça débouche sur des morceaux et après on les travaille un peu comme ça. Ou sinon Antoine arrive avec une série de riffs qu'on retravaille aussi, ou des fois j'arrive avec des démos avec déjà pas mal de choses écrites et on les travaille en répète. Donc c'est un truc un peu démocratique quand même.
Non, tout le monde amène
la main à la pâte en fait.
Ouais. Des choses et puis on essaie de faire la salade avec ça et voilà, on aime bien.
Alors du coup, nous venons d'écouter Destructeur. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'inspiration derrière ce titre et comment il a été créé?
Alors la musique d'abord.
Le parolier.
Le parolier. Destructeur, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on avait des chansons qui étaient de plus en plus longues avec beaucoup de riffs et de parties un peu différentes. Antoine avait proposé de faire un morceau très court, très punk, un peu classique,
droit,
genre très très droit.
Qui se compose en deux répètes, quoi.
Voilà, puis, c'est ça. Voilà. On écrit une chanson très vite qui défonce parce que c'est un peu ce qui nous manquait dans les concerts, d'avoir ce truc un peu explosif. Et donc on a fait ça très vite et voilà.
Moi au début, j'étais pas du tout fan. J'étais là, mais vraiment un truc bateau, on fait juste du poum tchak poum tchak poum tchak, et maintenant c'est l'une de mes préférées, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont réussi à me convaincre, mais converti. Direct en fait, à jouer, c'est un bonheur et elle est vraiment bien, enfin l'énergie qui a été recherchée, enfin l'objectif a été atteint, vraiment puissance 100, quoi.
Trop vrai,
oui. Voilà. Et pour oui,
est-ce qu'il y a un morceau en particulier dans votre répertoire qui a une signification spéciale pour vous ou qui représente une étape importante dans votre évolution en tant que groupe?
Mince, on l'a pas travaillé celle-là, les gars.
J'ai pas eu la question avant. Ouais. Gigi, je sais pas, t'as peut-être une idée.
Non, est-ce qu'il y en a une vraiment qui a marqué, genre qui aurait marqué un tournant, ou là se dire ça y est, on tient quelque chose, on est solide.
Moi, je dirais peut-être Au bord du vide, parce que c'est une des premières chansons que les gars ont écrites avant que je rentre dans le groupe. En fait, quand ils, pour me débaucher, en fait, ils m'ont fait écouter les 4 démos qu'ils avaient enregistrées avant, juste en instrumental, et c'était vraiment trop bien. Et en fait, on l'a travaillé très longtemps depuis qu'on j'ai rejoint le groupe, qui s'est passé par beaucoup de phases sur le texte et sur, le, bah, sur le, les lignes de chant et tout ça, jusqu'à qu'on enregistre le, tout ça dans mon home studio avec Antoine, qui m'a un peu coaché pour voir tout ça. Et en fait, on est arrivé à un résultat qui était assez dingue en allant dans des directions qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc c'était assez intéressant.
C'est peut-être celle qui a le plus changé de notre set. Vraiment la chanson qui a été modifiée, remodifiée, s'adapter pour les paroles. Quand les paroles ont changé ou trouvé un autre riff, hein, oui, c'est vrai que celle-ci...
C'est un fil rouge,
c'est ça.
Le fil rouge de toutes les compos qu'on a. Et
ça a découlé sur un peu tout le reste. On s'est dit qu'on pouvait faire du très pas content et du très mélodique et assez planant. Donc ça...
Tout à fait.
Ouais.
Au bord du vide.
Bien joué.
Alors, je sais que les festivités n'ont pas encore commencé, mais là, vous avez fait les balances, tout ça. Jusqu'à présent, comment se déroule votre expérience au festival Rock'n'Bray, le cadre, tout ça?
Bah là, c'est assez sympa. En fait, ouais, on est arrivé, l'accueil était assez dingue. En fait, avec Antoine et les gars qui nous ont rejoints aussi, en fait, c'est la troisième édition qu'on co-organise avec Atia, en fait. Et c'est la première édition, on nous a dit, vous faites rien à part venir jouer de la musique. Donc c'est assez sympa d'avoir la surprise et d'arriver en voyant les structures, la scène et tout ça. On est passé rapidement hier soir, on s'est pris un peu une claque quand même de débarquer et de voir comment tout a changé. Donc c'est vraiment super là pour le moment, on est un peu dans les chaussons quand même, là, c'est pas mal.
Bah ça ressemble à un vrai gros festival quoi, hein. Y a une grosse scène, un gros son, des stands partout, c'est incroyable en fait. C'est un très chouette festival, l'accueil est génial, le site est extraordinaire, il fait beau, c'est un vrai plaisir. Ouais.
Hâte de jouer, hâte de bien profiter aussi.
C'est bien de jouer le vendredi en fait.
C'est ce qu'on s'est dit, hein. Merci Antoine, bravo. Hein. Vaut mieux jouer tôt, le plus vite possible, comme ça après on est bien, on est tranquille, on profite.
Vous avez le temps de profiter.
Exactement, profiter c'est ça.
Est-ce que le fait de jouer dans un festival qui a une thématique japonaise a une influence particulière sur vos performances ou votre préparation pour ce soir ?
Alors, pas du tout. non, absolument pas, mais on avait réfléchi à des costumes et finalement, on avait tellement d'idées qu'on a décidé de rester dans nos petits t-shirts traditionnels.
C'est vrai, puis il fait chaud.
On
a essayé des choses, puis on habite chaud quand même.
Kimono avait été envisagé, mais très vite...
abandonné.
Mais c'est un thème super intéressant et qui rejoint un peu celui de l'année dernière qui était le jeu vidéo. Et c'est une sorte de continuité.
Ah, ça a l'air d'être un petit peu un fil conducteur hein, pour l'équipe ici.
Exactement, tout à fait. Ouais. Atia est passionné de jeux vidéo, passionné de culture japonaise notamment, de manga et compagnie. Je crois que c'est bien, ça lui donne un socle pour réfléchir à organiser des choses.
Ouais, complètement. Ouais.
Ça donne une couleur en fait au festival, ce qui est super. Il y a encore des bandes d'arcade cette année pour les gens qui adorent ça. Il y a plein d'animations autour de ces thèmes, donc c'est hyper chouette. Et puis le rock comme gros ensemble autour, c'est cool.
Comment décririez-vous la connexion que vous avez avec votre public lors de vos performances en live ? Y a-t-il un moment particulier qui vous a marqué ?
Ah, bah la connexion est plutôt bonne. 4 barres. Non, mais oui, c'est toujours bien les concerts en fait, parce qu'on sait jamais trop comment les gens vont nous appréhender. Parce qu'on a toujours un petit peu le cul entre deux chaises entre le rock et le métal en fait, dans ce qu'on fait. Ouais. Donc c'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent en différentes chansons. C'est pas toujours les mêmes réactions qu'on attendait forcément nous non plus. Donc c'est assez chouette de voir les gens danser, secouer la tête, bouger un petit peu, et d'avoir des bonnes. On a toujours des bons retours en général, c'est assez galvanisant quand même quand on fait un concert.
Ouais. Notre compliment préféré, c'est quand les gens qui sont pas du métal, du milieu du métal, nous voient, ils sont là, ils font ah ça envoie hein. Bon, y a des passages, c'est cool, c'est vraiment cool. Il y en a d'autres, ça crie fort hein. Ouais. Donc c'est un peu on est content quand des gens qui sont pas du milieu en fait ont quand même une sensibilité, se sentent quand même accrochés par les titres en disant c'est pas mon milieu, mais il y a un truc quoi. Il y a un truc qui se passe. Quoi.
Et c'est ce qu'on se disait en off, pardon, juste pour terminer tout à l'heure, c'est que c'est un exutoire aussi, on essaye de faire passer beaucoup de choses, beaucoup d'énergie et beaucoup de sincérité, je pense, dans la prestation, dans le live. Et bah, c'est ça qui catch le public, quoi. Plus c'est authentique et plus on donne et plus les gens sont généreux et plus ils sont contents et c'est trop bien. Ouais.
Tout à fait.
Tout à fait.
Merci beaucoup Vénératrice pour cette discussion passionnante. C'était un réel plaisir d'en apprendre davantage sur votre parcours et votre musique. Et bien tout de suite, je vous propose qu'on écoute un autre morceau de Vénératrice intitulé L'Horloge. C'est extrait de votre dernier EP qui est sorti cette année, c'est ça ?
Exactement, oui. On l'a sorti au mois de septembre, je crois. Septembre dernier, oui, c'est ça, oui.
Juste avant de lancer le morceau, j'ai une dernière petite question. Est-ce que il y a un projet d'album ? Quels sont les projets qui sont dans les cartons qui
devraient Alors, on devrait retourner en studio à la rentrée, normalement. On doit un peu finaliser tout ça, mais on devrait retourner enregistrer un autre EP, 4 titres, et plus tard compiler les 8 chansons qu'on aurait au total pour vendre ça sur un petit CD, faire un petit t-shirt ou quelque chose avec, et refaire des concerts derrière pour avancer. Voilà.
On va penser à nous l'envoyer, hein, parce que moi j'ai vraiment apprécié en préparant cette émission. C'était une découverte pour moi, et vraiment, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup,
et on écoute
le morceau L'Horloge.
À tout de suite.